écho, billet d'humeur ou chronique, anecdote ou histoire, culturelle et musicale. Inclassable. Aux manettes et au micro, Gilles Bègue. Bonjour et encore une fois merci à toutes et à tous pour votre fidélité, à tous ceux qui m'écoutent en France sur les ondes de vos radios préférées bien sûr, mais aussi à tous ceux qui m'écoutent en streaming sur le net ou bien en podcast des quatre coins du monde et sur tous les continents, comme en atteste chaque mois les stats du site Orinoco. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui prennent du temps pour m'envoyer leurs commentaires, appréciations et critiques sur ce même site, orinoco-podcast, message auquel j'essaie de répondre systématiquement. Chaque saison, Orinoco sort de ses thèmes de prédilection, réflexion et questionnement pour vous proposer un ou plusieurs voyages. Voyages souvent culturels, historiques et musicaux à la fois. Eh bien, pour continuer la série de pérégrinations, ce numéro un peu spécial sera plus difficile à définir que d'ordinaire, car nous voyagerons et pénétrerons ensemble dans divers univers. Univers musical, univers sociologique, sociopolitique et univers historique. Et c'est sans doute cette dernière orientation qui dominera l'ensemble de ce programme, d'où son titre, l'histoire avec un grand H, à quoi sert l'histoire ? Des Indes galantes à la Bastille. Mais pour en arriver là, il est indispensable que je vous raconte la genèse de ce programme. C'est en deux mots une rencontre, du moins des rencontres, avec un réalisateur, Philippe Béziat, un metteur en scène, Clément Cogitor, une danseuse et chorégraphe, Bintou Dembélé, accompagné d'une trentaine de danseurs de hip-hop, crump, break et voguing, d'un chef d'orchestre, Leonardo Garcia Alarcón, et d'un compositeur, Jean-Philippe Rameau, dont j'avais déjà fait l'éloge dans une émission de juin 2021 qui s'intitulait Paris 2e. Rameau, que l'on entend en ce moment. Je vous explique. En novembre dernier, c'était le mois du doc, du film documentaire. N'oublions pas que l'histoire du cinéma documentaire, est, entre autres, particulièrement riche et commence aux origines du cinéma, à la fin du 19e siècle. Deux mots, malgré tout, sur ce qu'est le mois du doc, pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, le mois du doc est né en 2000 et met le film documentaire à l'honneur. C'est devenu un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et changer ses idées sur le monde, ce que nous ne manquerons pas de faire tout au long de ce programme. Petite parenthèse, pour ceux qui me connaissent personnellement, ou simplement au travers de ce programme, dont les deux émissions que je consacrais au cinéma, et à qui je rabâche sans cesse que le dernier film que j'ai vu c'était en septembre 1975, Scarecrow ou L'Épouvantail, eh bien je peux réaffirmer que c'est une réalité, car en parlant de film, j'entends film de fiction et j'exclus les films documentaires que je continue à regarder. Voilà, je referme cette petite parenthèse. Alors, au fil des années, le mois du film documentaire a tissé un grand réseau de partenaires sur le territoire pour favoriser la diffusion du documentaire et sa visibilité des films auprès de tous les publics. Et c'est donc auprès des médiathèques de mon département que je me suis tourné pour profiter de ces projections. Et parmi les sélections faites par celle-ci et auxquelles j'ai eu la chance d'assister, c'est entre autres Les Indes galantes qui a retenu mon attention. Et plus que retenir mon attention, m'a décidé d'articuler un programme autour de ce film documentaire de Philippe Béziat. Car plus qu'un film, c'est une réflexion profonde et mille questions qu'il suscite. Alors, sans spolier ou divulgâcher le contenu de ce film, qui prend toute sa dimension par les images et la musique, et ne risque en aucun cas d'être abîmé par le récit que je vais en faire, le premier conseil que j'ai envie de vous donner sera de vous encourager à aller le voir. Le mieux sera de le louer, ou en DVD, ou sur une plateforme de streaming, et de réunir vos amis ou votre famille pour le regarder à plusieurs, afin de pouvoir en discuter ensemble après le visionnage. Et je suis certain que les débats et échanges d'opinions seront très animés. Tant ce doc pose de questions et bouleverse nos habitudes. Et ce qui m'a surtout, entre autres, donné envie d'articuler une émission autour de ce doc, c'est que je venais de terminer une émission qui fut mise à l'antenne en décembre dernier et qui s'intitulait « Sectarisme, ignorance et suffisance ». Et j'ai trouvé que ce doc, « Les Indes galantes », enrichissait, complétait parfaitement les idées développées dans cette émission. Émission où je faisais déjà référence à des métissages, dont celui du groupe de metal Gojira et de la soprano Marina Viotti et l'Orchestre de Paris. Émission que vous pouvez d'ailleurs toujours réécouter sur le site orinoco-podcast. Mais c'est maintenant le temps de parler de ce film documentaire. C'est quoi précisément ce doc? Quelle est cette histoire qui m'a tant séduite et bouleversée au point de vouloir articuler une émission autour de cette aventure? Alors d'abord, en deux mots, et pour faire simple, avant de rentrer plus profondément dans toutes les arcanes de cette aventure humaine, artistique, musicale, historique et politique. Alors c'est avant tout une première pour 30 danseurs de hip-hop, break, crump et voguing. Une première pour le metteur en scène Clément Cogitor et pour la chorégraphe Bintou Dembélé, et une première pour l'Opéra de Paris. Peut-être deux mots aussi sur ce que sont ces danses urbaines et modes d'expression pas toujours connus du grand public. Alors, le hip-hop, ça doit parler quand même à pas mal de personnes. Quant au crump et au crumper, je pense que ça mérite peut-être une explication. Alors, le crump, ou crumping, est une danse née en 1992 dans un quartier paupérisé dans le sud de Los Angeles suite au décès de Rodney King et surtout suite à l'acquittement des quatre policiers filmés et inculpés dans cette affaire. Et comme une réponse positive face au déterminisme chaotique, ils inventèrent cette danse. Cette danse est non-violente malgré son apparence agressive à cause des mouvements exécutés très rapidement, des stampes, c'est-à-dire les pieds qui frappent fortement le sol, de la rage ou de la colère, qui peut se lire parfois sur les visages des danseurs de crump, qu'on appelle les crumpers. Oui, cette danse veut être une danse représentant la vie. Et les expressions agressives qui se lisent sur leurs visages ne sont que le reflet de leurs efforts physiques intenses. Quant au voguing, on en retrouve les premières traces en 1869, dans un bal masqué à Harlem, dans le Hamilton Lodge. Mais aujourd'hui, c'est dans des bowls que la communauté noire LGBT parodie les concours de beauté de l'élite blanche, leur posture et leur gestuelle, dont les figures sont inspirées des poses du magazine Vogue, dont le nom Voguing. Alors ils commencent par prendre des poses très maniérées, inspirées des parades sur les podiums. Ces soirées deviennent des théâtres flamboyants à coups de costumes à paillettes, de maquillage outrancier et de talons aiguilles. Avec aujourd'hui deux ou trois éléments assez distinctifs et reconnaissables. Le duck walk, caractérisé par une marche accroupie avec les jambes pliées sous soi, évoquant le dodelinement d'un canard. Le spin and dip, une rotation avant de tomber au sol sur le dos avec une jambe repliée sous soi, assez impressionnant. Autant d'ailleurs que les mouvements de contorsionnistes qui précèdent cette chute au sol. Mais si le voguing dit quelque chose à quelques-uns aujourd'hui, cela vient surtout, à mon avis, de Madonna, qui l'a popularisé en 1990 avec son titre Vogue et surtout grâce à son clip. Voilà pour ce qui est de ces deux danses les plus présentes dans ce doc. Et tout en faisant dialoguer ces danses urbaines et le chant lyrique, il réinvente Ensemble, un chef-d'œuvre baroque que Jean-Philippe Rameau créa en 1735. Les Indes galantes. L'ensemble, allant des répétitions aux représentations publiques, est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous offre ce doc. Avec une question en filigrane, une nouvelle génération d'artistes peut-elle aujourd'hui prendre la Bastille ? Mais rien de tel, à mon avis, pour mieux comprendre, que d'écouter ce qu'ont déclaré les principaux intéressés, en commençant par le réalisateur Philippe Béziat, qui répondait à des questions lors d'une rencontre avec des universitaires à Nantes. Pour lui, cette entreprise est une effraction. Je reprends ces termes, sous plusieurs rapports. Premièrement, emmener des danseurs derrière une frontière où ils ne sont normalement pas admis. Je veux parler, dit-il, de l'Opéra de Paris, cette immense institution très structurée qui a affaire avec l'art, l'histoire et tous ces grands symboles. Et d'y faire pénétrer des disciplines, mais surtout des personnes qui n'ont pas le droit de citer normalement. Et la seconde effraction supplémentaire fut de ne pas faire la Traviata ou un Mozart, mais de raconter une œuvre phare de Jean-Philippe Rameau, de ce 18e siècle, de ce siècle des Lumières où le rapport à l'étranger et à tout ce qui est lointain, à tout ce qui devient colonial après avoir été exploratoire, paraît à la fois dangereux et exotique. Et Rameau avait choisi de raconter ses aventures au travers de quelques histoires d'amour dans quatre tableaux différents qu'on appelle pas ici des actes mais des entrées, avec une recherche d'exotisme et d'orientalisme dans des Indes très approximatives qui se trouvent en fait en Turquie, en Perse, au Pérou, puis chez les Indiens d'Amérique du Nord. Et l'une des questions en filigrane est à vrai dire, l'autre est-il humain ? Ce qui explique entre autres le titre d'un des livrets, Les Sauvages. Un point important aussi était de ne pas tenter d'en faire une appropriation culturelle pour rendre une belle image, mais plutôt de rester soi-même. Chaque famille ayant une personnalité très forte et singulière, il fallait que chaque identité garde ses spécificités sans tomber dans l'envie de chorégraphier l'ensemble comme on le ferait avec un corps de ballet, même en danse contemporaine. Et le passionnant, c'est qu'ils se sont tous rencontrés de part et d'autre de ces frontières, comme ce fut le cas entre autres de la soprano Sabine Devieille, qui s'est pris d'une profonde admiration pour ses danseurs, particulièrement les vlogueurs. Une autre frontière qui est tombée, c'est le rapport entre le public et la scène, où à chaque fin de représentation, et tant que les danseurs gardaient le poing levé, la foule de l'opéra applaudissait debout, et sans cesse, ça pouvait durer une dizaine de minutes à chaque représentation. Et l'une des autres belles découvertes fut aussi travailler sur une œuvre de Rameau, ce qui n'aurait pas été possible avec Verdi ou Wagner, car ce grand compositeur avait une grande proximité avec la danse, dont les danses populaires, celles du peuple, comme des musettes ou des gigues. Rapport étroit entre ces danses populaires, pour lesquelles il écrivait des musiques pour les foires du théâtre de Tréteaux, avant de les amener sur les scènes royales. Car pour Rameau, il n'y avait pas de frontière entre l'art savant et l'art populaire. Mais avant d'entamer le chapitre sur l'histoire, histoire avec un grand H, je vais ouvrir deux parenthèses successives. La première, pour ceux qui me connaissent personnellement ou qui me connaissent simplement au travers de ce programme et qui n'ont certainement pas eu de mal à comprendre pourquoi ce film a pu me séduire, plus que me séduire, me coller à la peau, moi qui fus biberonné par Ferré, ne pouvant m'empêcher de repenser tout au long de la projection de ce doc à Moussessein, S. Moussessein. Cela doit-il être, cela est. La musique, où elle est la musique? Dans les salons lustrés aux lustres vénérés, dans les concerts secrets aux secrets crinolines, dans les temps reculés aux reculs empaffés, dans les palais conquis aux conquêtes câlines. C'est là qu'elle se pâme, c'est là qu'elle se terre, la musique. Nous, c'est dans la rue qu'on la veut, la musique. et elle y viendra. Et nous l'aurons, la musique. Moussessain es Moussain, cela doit-il être, cela est. Dans la rue, la musique. Eh oui, dans la rue, la musique. Et même si des efforts sont faits, elle n'y est pas encore complètement dans la rue. Surtout quand vous voyez le prix d'une place pour rentrer à l'Opéra de Paris. Mais c'est encore une autre histoire. Histoire qui me conduit, malgré tout, à une réflexion que j'avais envie de partager avant d'attaquer la partie historique, aussi intéressante que la partie musicale et théâtrale. Et qui est une suite logique à ce dont je viens de parler précédemment. Lors de la projection de ce film documentaire, Les Indes Galantes de Philippe Béziat, tous les spectateurs, dont de nombreux lycéens présents dans la salle, paraissaient emballés par ce film documentaire. Tous, moi y compris, avec, malgré tout, quelques réserves. Non sur la qualité du film, ni sur la nature même du film et du projet, ni non plus sur ses intentions ou ses résultats, mais sur la naïveté et l'innocence des spectateurs à mes côtés. Je vais m'en expliquer. Naïveté confirmée d'ailleurs bien après cette projection, où, en parlant avec des amis, tous ou presque me dire « les choses changent ». Alors si c'est vrai que les choses changent, il est quand même évident et facile de constater, au moins sur deux séquences de ce documentaire, quelque chose d'assez frappant. Lorsque le réalisateur s'attarde à la fin du film sur la standing ovation du public dans la salle de l'Opéra Bastille, il n'y a pas un seul noir ou métis. Durant le film, sans s'y attarder mais à plusieurs reprises, quand même, les caméras se posent de temps en temps sur la fosse de l'orchestre. Et là non plus, pas un noir ni un métis. Aucune main de couleur pour tenir un archet. Ni de main de couleur sur des touches d'ivoire. Alors, les choses changent peut-être, mais pas si vite que ça. Et pour moi, qui ai eu l'occasion, la chance, de connaître El Sistema, le programme d'éducation musicale développé au Venezuela par El Señor José Antonio Abreu en octobre 1975, et oui, 50 ans déjà, que fonctionne l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau système d'éducation, pour moi c'était un vrai choc et une vraie déception de trouver le métissage que sur la scène au travers de cette trentaine de danseurs de musiques urbaines venus des quatre coins du monde, mais uniquement là, tout en signalant quand même que ce n'était pas la première fois que les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau étaient associées au hip-hop. Il faut croire qu'il existe des affinités secrètes entre la street dance et le baroque. On peut rappeler à ce sujet, pour ceux que ça intéresse, qu'il y eut les versions de Laura Scossi à l'Opéra de Bordeaux et Blanca Lee à l'Opéra de Paris avant celle de Clément Cogitor et Bintou Dembélé à l'Opéra Bastille. Ce qui m'amène à vouloir vous dire quand même quelques mots peut-être sur El Sistema, ce projet né d'un rêve utopique dans lequel un orchestre devait représenter la société idéale et l'idée que plus un enfant se nourrit tôt dans ce milieu, mieux cela vaudra pour tous. Et la mission d'El Sistema va au-delà de la musique, comme l'expliqua Gustavo Dudamel, l'un des fruits emblématiques, mais pas uniques, de cette entreprise culturelle. C'est une mission sociale, c'est un mode de vie. Et l'orchestre est pensé comme un modèle de fonctionnement pour une communauté, pour un pays, pour le monde. La motivation première d'El Señor José Antonio Abreu était d'offrir une porte de sortie aux jeunes Vénézuéliens vivant dans les banlieues de Caracas, quartier particulièrement défavorisé et dangereux déjà à l'époque, en leur offrant la possibilité d'intégrer un orchestre symphonique, pas simplement en apprenant la musique, mais aussi en se pliant à la discipline et à la rigueur qu'impose un orchestre. La finalité n'étant pas qu'ils deviennent tous des musiciens professionnels, mais qu'ils apprennent à développer des qualités telles que la patience, le respect, l'écoute de l'autre, et qu'ils prennent aussi beaucoup de plaisir dans le travail. L'expérience était ambitieuse, mais avec le recul, on peut dire que ce fut un véritable succès. quelques chiffres que j'ai relevés remontant à 2018, année de la mort de José Antonio Abreu, 900 000 enfants bénéficient du programme El Sistema, encadré par quelques 10 000 enseignants, dans plus de 1500 orchestres répartis dans tout le Venezuela. Au Venezuela, un pays où la moyenne d'âge de population est de 26 ans, la musique classique n'est pas un domaine réservé à l'élite. Et j'en veux pour preuve au moins deux anecdotes qui me sont arrivées. L'une à Coro, une ville de l'état de Falcón. Un soir, ne sachant que faire, j'ai demandé à quelques écoliers sortant de l'école « Qu'y a-t-il d'intéressant à faire ce soir en ville ?» Après quelques instants de réflexion, ils me répondirent « Ah ben, comme nous sommes jeudi, il y a la soirée gratuite à l'Opéra de Coro. Vous verrez, c'est très beau. » Ils avaient une dizaine d'années et m'indiquaient l'opéra. Opéra où je me suis rendu pour découvrir une chose inouïe. Tous les jeudis soirs, sous la baguette de Teresa Hernández Vega, dirigeant l'Orchestra Sinfonica de Falcón, deux heures de concert gratuit, avec pour obligation chaque semaine, du moins à l'époque, de programmer une œuvre d'un grand compositeur. Ce soir-là fut la symphonie numéro 9 en ut majeur, connue sous le nom de la Grande Symphonie, la dernière à avoir été achevée par Franz Schubert, suivie d'une pièce d'un compositeur sud-américain et conclue par une composition vénézuélienne, si possible d'un compositeur de la région. Chaque semaine, une programmation différente. Vous pouvez imaginer Reims, par exemple, une ville à peu près identique à celle de Coro, programmer gratuitement et chaque semaine un concert à l'opéra avec entre autres un compositeur de la région. Le tout recommandé par des gamins sortant de l'école primaire dans une des banlieues de la ville. L'autre anecdote que j'aimerais vous citer illustre bien ce rapport très particulier qu'ont les Vénézuéliens à la musique. Un jour, à Caracas, qui n'était pas la ville que je préférais, je partis déjeuner à la Estación del Pollo, un restaurant populaire assez bon marché, genre restaurant ouvrier. Une bouffe exceptionnelle, mais une ambiance souvent très bruyante et enfumée à cause des télévisions retransmettant souvent des matchs de baseball et des braseros posés sur les tables. Quand un jour, tout en pénétrant dans l'établissement, je fus saisi par le silence de cathédrale qui y régnait. Et pour cause. Il retransmettait Luciano Pavarotti, Placido Domingo et José Carrera en direct de Rome, les trois plus grands ténors du moment réunis sur une même scène. Et les 150 à 200 personnes présentes dans ce restaurant étaient comme hypnotisées par ce spectacle. Pouvez-vous imaginer en France tous les clients d'un restaurant ouvrier, médusés et applaudissant le récital de trois ténors, trois chanteurs d'opéra? C'est pour ça que je pense qu'il y a encore du boulot et que même si l'on s'emballe, à juste titre, sur des expériences magnifiques, comme ce fut le cas des Indes galantes de Rameau dansées par des danseurs de hip-hop, il faut, comme il le dirait à la télé, savoir raison garder. Et je ne revendique pas au travers de ces propos que l'orchestre de l'Opéra de Paris ou que l'Orchestre National de France soit noir, non, juste à la couleur des habitants de notre territoire, ce qui est le cas au Venezuela. Rappelons-nous que la musique est un droit et pas un privilège. Et peu se rendent compte, malheureusement, que la musique fait l'histoire. C'est vrai que les choses changent un peu. En 2015, El Sistema a signé un protocole d'accord avec le Conservatoire National Supérieur de la Musique et de Danse de Paris. Ce dernier affichant son intérêt pour les méthodes pédagogiques du programme vénézuélien, dont il entend s'inspirer en organisant des échanges d'expériences et de connaissances sous la forme de séjours d'observation. Puis en France, l'association Tutti Passeurs d'Art, hein, soutenue entre autres par le chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel, développe des formations instrumentales collectives dans les écoles des quartiers défavorisés. Elle s'inspire ouvertement du programme El Sistema. D'ailleurs, en novembre dernier, Jean-Claude de Calonne, auteur, fondateur de Tutti Passeurs d'Art et amis, faisait remarquer, suite à la remise des prix du Nobel à l'opposante vénézuélienne, qu'à chaque fois, personne n'évoque celui qui, à mes yeux, et sans doute aux yeux de beaucoup d'entre nous, aurait dû figurer parmi les noms évidents, José Antonio Abreu. Je regrette personnellement de ne pas avoir consacré un numéro spécial d'Orinoco en septembre dernier pour célébrer les 50 ans d'El Sistema. Voilà. Je referme ce petit coup de gueule, ou du moins cette petite mise au point, pour en revenir aux questions historiques mises en lumière par ce documentaire. Et je tiens à réitérer que mes intentions et mes derniers propos n'ont pas pour but de dénigrer ce film documentaire, mais juste de me navrer d'une certaine situation que je constate et regrette. Et avant d'attaquer la partie historique où l'on rappellera que l'histoire n'est pas une science du passé, continuons encore un moment pour être le plus précis possible sur la situation actuelle. Non pas dans le but d'inquiéter les plus optimistes, mais pour faire le point sur le travail qui reste à faire. En juin 2020, un manifeste rédigé par 5 danseurs de l'Opéra de Paris demandait à la direction de prendre un certain nombre de mesures pour lutter contre les discriminations à l'intérieur de l'institution. Le nouveau directeur, Alexandre Neff, a demandé à Constance Rivière, secrétaire générale du Défenseur des droits à l'époque, et Pape Ndiaye, historien et professeur des universités à Sciences Po, un rapport sur les discriminations en raison de l'origine. Question attirant l'attention sur le blackface et les yellowface, mais également une réflexion sur le balai blanc, archétype codifié exigeant une homogénéité de couleur, travaux aussi sur l'analyse historique des conditions de production des œuvres destinées au ballet et à l'opéra, insistant notamment sur la concomitance entre la colonisation et l'esclavage, et la représentation dans les œuvres de peuples exotiques, le plus souvent sur le mode de la fantaisie et des corps luxuriants. Ce rapport attesta entre autres de la difficulté pour les publics, en particulier issus de la diversité, de s'identifier et de se reconnaître dans des œuvres pensées, il faut l'avouer, pour un public des 18 et 19e siècles, empreintes des idées de supériorité de la race blanche et de la suprématie de l'Europe sur le reste du monde. Rapport abordé au travers de la question du maquillage, transformant la couleur de peau, ce qu'on appelle le blackface ou le yellowface, que l'on pouvait encore voir dans les mises en scène récentes, devant être abandonné, tout en se demandant si renoncer à ce type de maquillage trahissait l'œuvre, en changeait le sens ou faisait obstacle à sa compréhension. Le rapport insistait aussi sur le fait que la lutte contre les discriminations ne pouvait pas se faire au détriment de la liberté de création. Ainsi, la danse des négrillons de Bayadère, un ballet en 3 actes, déjà rebaptisé la danse des enfants par Benjamin Millepied, sera toujours jouée, mais les petits rats ne seront plus noircis, comme les enfants noirs qui accompagnaient, tels des animaux de compagnie, les portraits aristocratiques du XVIIIe siècle. Tout en restant très respectueux de l'institution, ce manifeste pointait du doigt des pratiques d'un autre âge, qui s'apparentent à de la discrimination pour les artistes noirs et pourtant facile à supprimer. Rapport qui, vous pouvez l'imaginer, a suscité et provoqué des réactions diverses, favorables, mais aussi hostiles. Et c'est vrai que l'opéra n'est pas une institution discriminante en soi, mais elle vit avant tout dans une société qui n'est vraiment pas égalitaire. Et l'on pourrait s'interroger aussi sous ce rapport du discriminant et du non-égalitaire avec la place des femmes. Héritage de l'imaginaire de la ballerine oblige, les femmes sont à l'honneur sur scène, dans tous les ballets de France ou presque, mais dès lors qu'il est question de chorégraphie, elles sont presque entièrement absentes des programmations. La sociologue et critique de danse, Laura Capel, est revenue sur les mécanismes de cette exclusion. La saison 2024-2025 du Ballet de l'Opéra de Paris est tombée comme un coup près. une femme pour 14 hommes, soit un peu moins de 7% des chorégraphes à l'affiche. Côté lyrique, on ne retrouve ni metteuse en scène, ni compositrice, ni librettiste. Et ce n'est pas que l'Opéra de Paris qui est visé. La saison prochaine, le Ballet du Capitole de Toulouse présente une création signée par une femme, Morgane Runacre-Temple, pour 8 œuvres d'hommes. Mais je m'arrête là sous le rapport de la place des femmes pour revenir à nos moutons noirs ou colorés. Et parler de, je sais pas, Jean-Marie Didier, un danseur noir, ou de Kader Belarbi, un danseur d'origine algérienne, ou de la nomination de Guillaume Diop comme danseur étoile noire de l'Opéra de Paris, nommé en 2023, pour affirmer qu'il n'y a aucune discrimination au sein du ballet, et évoquer aussi 4 ou 5 artistes sur 40 ans, montre pourtant qu'il y a bel et bien un problème. L'attribution systématique des rôles concernés à des artistes racisés, un chanteur noir pour Othello, une chanteuse chinoise pour Turandot, comme le fait le Royal Opera de Londres, présenterait aussi un risque, celui d'assigner les artistes à certains rôles, de renforcer l'idée que la couleur de peau est un élément de choix déterminant dans l'attribution des rôles. Au contraire, comme le dit le metteur en scène David Bobet, le véritable universalisme, c'est quand on se reconnaît dans une autre couleur de peau. Maquiller un visage en noir est une fausse vraisemblance et l'enlever ne nuit en rien au ballet. Le fait de rebaptiser en danse des enfants la danse des négrillons et d'enlever les costumes et maquillages noirs pour les enfants blancs n'a en rien dénaturé l'œuvre et n'a pas détruit le ballet. D'autant que, et le rapport le rappelle aussi, les ballets n'ont cessé de se transformer au fil des siècles. Les œuvres du ballet même, les plus classiques, sont en permanente transformation, réinterprétation, réinvention. L'idée qu'il y aurait un modèle original à reproduire fidèlement est depuis longtemps une fiction dont la plupart des chorégraphes se sont affranchis. L'Opéra National de Paris n'est pas un lieu de diversité, disons-le franchement. Dans l'ensemble, c'est un monde blanc, fort éloigné de ce à quoi ressemble la société contemporaine. Malgré tout, il serait exagéré de dire que le public de l'Opéra de Paris n'aime pas voir des artistes de couleur dans des rôles de blanc. Et même s'il est vrai que certaines résistances existent de la part du public, elles ne reflètent pas tout le public. Mais il est vrai aussi que, lorsque les institutions renouvellent leur distribution ou modifient certaines traditions, une minorité de spectateurs exprime parfois des réactions hostiles, souvent au nom de la tradition, disant « on ne reconnaît plus l'œuvre ». Et quant à ceux qui se plaignent en disant que si tous ces changements intervenaient, on ne reconnaîtrait pas l'authenticité des œuvres, qu'il est dommage d'abandonner tout cet héritage, j'ai envie de leur poser une ou deux questions. Vous souvenez-vous de l'époque où des garçons étaient castrés entre 8 et 10 ans? Opération qui pouvait aussi bien être faite par un barbier, les parents de l'enfant ou un chirurgien de l'époque, avec un taux de mortalité variant entre 10 et 80% selon les opérateurs. Avons-nous oublié le prix exorbitant payé par des innocents pour réaliser le rêve ou les ambitions de certains adultes? Je vais vous parler des castrats. Comment le corps des castrats était-il perçu et représenté à l'époque baroque? Comment cette mutilation pouvait-elle être tolérée? Les spectateurs étaient-ils horrifiés ou fascinés? Allons-nous, par exemple, tolérer que la nostalgie du bel canto conduise à minimiser, voire justifier, un crime terriblement humain? Mais c'est vrai que tordre le cou à des idées reçues, ébranler des certitudes, sans jamais irriter les auditeurs, relève probablement du défi. Mais à trop rêver sur la beauté de timbres qui resteront inouïs, nous risquons de passer à côté des trésors que peut nous offrir le présent, l'apparition, il y a une vingtaine d'années, de chanteurs baptisés sopranistes, qui sont en fait des contre-ténors au registre de fausset beaucoup plus étendu. Écoutez ce que l'on pouvait lire à l'époque. La voix est une faculté plus précieuse que la virilité, puisque c'est par la voix et le raisonnement que l'homme se distingue des animaux. Si donc, pour embellir la voix, il est nécessaire de supprimer la virilité, on peut le faire sans impiété. Un autre argument souvent avancé par les nostalgiques du bel canto était de dire qu'il arrivait souvent que de jeunes garçons expriment eux-mêmes le souhait d'être castrés. Vous dites-vous aujourd'hui qu'il vous est impossible d'apprécier le rôle d'Orphée dans Orfeo et Eurydice de Gluck, créé à Vienne en 1762 et dont le rôle d'Orphée était effectivement tenu par un castrat? Ou bien encore le rôle de Sesto dans La Clémence de Titus de Mozart, interprété par un castrat lors de sa création en 1791, notamment par Domenico Bedini? Certainement pas. De nos jours, en l'absence de castrat, le répertoire destiné à ce genre de voix est habituellement interprété soit par des contre-ténors, soit par des mezzo-sopranos, possédant une voix particulièrement aiguë et étendue. Et vous continuez malgré tout à aller à l'opéra, même si cette barbarie est interdite. Les choses changent. Les choses doivent changer. Mais ce regard passéiste peut se décliner dans tous les domaines. Savez-vous qu'il a fallu attendre 404 après Jésus-Christ pour qu'Honorius décrète alors l'interdiction définitive des combats de gladiateurs? Ça a dû être dur, à l'époque, de se passer d'un tel divertissement où l'on pouvait, en compagnie de ses enfants, voir le vrai courage et la bravoure des acteurs. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on ose parler de combat lorsque 15 types de chaque côté d'un grand pré en herbe verte courent derrière un petit ballon en plastique, sans glaive et sans poignard? Quelle fadeur! Comment s'y retrouver? Ça vous paraît ridicule ce que je viens de vous dire? Car vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui vous détendre devant des mecs se découpant en morceaux ou se faisant dévorer par des tigres. Mais ce fut pourtant le cas à une époque. Et vous me direz, oui, mais les époques changent. Et vous avez raison. Et c'est pour cette raison même qu'il serait aussi ridicule de vouloir maintenir les traditions des combats de gladiateurs dans les arènes que de vouloir maintenir les traditions du ballet blanc. Et si c'est être woke, de s'opposer au blackface et d'être éveillé aux injustices que subissent les minorités dans les pays occidentaux, alors je suis woke. C'est vrai aussi que je pourrais articuler une émission autour du thème « Nostalgie quand tu nous tiens ». Mais, enfin, si je continue sur ce sujet, la part de ce programme que je voulais consacrer à l'histoire va se réduire comme peau de chagrin. Alors j'arrête là. Et pour en arriver finalement à l'histoire, l'histoire avec un grand H, nous allons tenter d'examiner rapidement l'aspect historique, hein, tout en rappelant, comme je le disais précédemment, que l'histoire n'est pas une science du passé. Pourquoi je dis ça? C'est que l'histoire évolue et quand elle nous arrive, elle a subi une lourde transformation, à vrai dire de lourdes transformations. Car si l'on veut faire de l'histoire une science qui nous assigne dans des représentations immuables, soit dont on a été victime, soit dans lesquelles on a été construit, on ne fait que reproduire des discours de domination ou de discrimination. Et si les sciences et l'histoire se veulent être émancipatrices, il faut qu'elles puissent s'emparer d'actualité pour pouvoir considérer les choses autrement. Et même si cette œuvre de Rameau, les Indes galantes, s'inscrit dans un discours idéologique, celui de la domination occidentale, de la discrimination des peuples secondaires et inférieurs, il y a toujours un regard à porter sur ces inférieurs, ces sans importance, auxquels on ne fait plus attention, mais qui, si l'on prend l'exemple de Paris, se trouvent simplement au-delà du périphérique. Et si vous pensez qu'on est loin aujourd'hui du regard que l'on pouvait avoir à l'époque de Rameau, détrompez-vous. Et en revenant, simplement 10 secondes, là, au sein de cette grande institution qu'est l'Opéra de Paris, dont je viens de parler, on vient de découvrir, pour certains, que ce n'est qu'en 2020, c'est-à-dire hier, que l'Opéra de Paris a commencé à penser à interdire formellement le Blackface dans ses représentations, après que près d'un quart de son personnel ait signé une lettre ouverte contre le racisme. J'avais oublié d'ailleurs de vous signaler, en parlant de la difficulté pour les publics de s'intéresser à l'opéra, le prix des places. Rien à moins de 100 euros, et j'en ai fait les frais mi-décembre. Mais par bonheur, si l'on revient à l'histoire, le regard que l'on porte sur elle a évolué. Car si l'on jette un petit coup d'œil dans le rétro, on s'aperçoit que l'histoire fut d'abord appréhendée comme un récit héroïque, centré sur les rois, les héros, les batailles, les grands hommes, c'est ce qu'on m'apprenait. Un mélange de faits réels, de mythes et de légitimation politique. En notant que l'histoire fut surtout écrite par des élites pour justifier le pouvoir. Avec, comme conséquence, un passé apparaissant toujours, presque toujours, pour ne pas dire toujours, comme un héritage glorieux et pas comme un objet de critique. Puis avec la Renaissance, l'histoire fut un peu plus humaniste et critique, avec une analyse critique des textes et une mise à distance progressive du mythe et du religieux. Puis, dès le XIXe siècle, l'histoire devint un peu plus scientifique. L'histoire dut être objective, neutre et factuelle. L'histoire s'est professionnalisée et transformée en une discipline académique. On a cessé de voir l'histoire comme une succession d'événements. Elle prit le rôle d'une science sociale. Et l'on commença à avoir un nouveau regard sur des groupes oubliés. L'histoire des femmes, l'histoire ouvrière, l'histoire coloniale et post-coloniale, l'histoire des minorités et des migrants. Le passé commença à ne plus être raconté seulement du point de vue des dominants, et l'on comprit que l'histoire concernait toute la société. Puis arriva très doucement, trop doucement, le tournant mémoriel, la Shoah, l'esclavage, les génocides, la colonisation, avec la prise en compte des traumas et des mémoires plurielles. C'est évident que ce nouveau regard entre mémoire et histoire ne laisse personne indifférent, ou du moins ne devrait laisser personne indifférent. Il n'est pas si loin, malgré tout, le temps où l'on m'apprenait le génie de ce grand homme de l'histoire de France que fut Napoléon, sans à aucun moment souligner le despotisme dont il faisait preuve. C'est vrai qu'en histoire, il faut savoir adopter des points de vue nuancés et admettre que Napoléon n'était pas tout noir ou tout blanc. Et cet aspect nuancé a trop longtemps échappé à l'enseignement de cette discipline. Posons-nous cette question. Quel regard aurait-on aujourd'hui sur un dirigeant qui nous dirait aimer la guerre? Et pourtant, c'est ce que Napoléon disait lui-même, qu'il aimait la guerre en artiste. En Espagne, en Russie surtout, il montra qu'il faisait la guerre avant tout par amour de la gloire. Et les enjeux étant de plus en plus élevés, le nombre de morts augmenta et les batailles furent de plus en plus sanglantes. Jamais on ne m'a appris qu'en 1802, Bonaparte, devenu premier consul, décida de maintenir l'esclavage alors qu'il avait été aboli par la Convention en 1794. Le rétablissement de l'esclavage est bien entendu une faute atroce et une tache sur le bilan du consulat, qui a sans doute choqué à l'époque et qui nous choque encore aujourd'hui, à juste titre. Démonstration que j'aurais pu faire avec n'importe lequel de nos bons rois de France, à qui l'on n'attribuait que des vertus, car considérés comme élus de Dieu. Le but n'était pas donc de démontrer et de démonter Napoléon, mais juste de faire remarquer que l'histoire tient le plus souvent du roman national, même si les choses semblent changer, sans pour autant recevoir malgré tout l'assentiment de tous. Si l'on reprend l'œuvre de Rameau, les plus extrémistes proposent, suggèrent d'interdire les productions de ses œuvres. idée pour laquelle je ne suis pas favorable. Comparé à celle plutôt de les expliquer, de les replacer dans leur contexte. D'où l'importance de faire de l'histoire une science évolutive et vivante. Jean-Michel Vinciguerra rapportait dans un article de la Bibliothèque nationale de France qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, les historiens pensaient que l'humanité avait connu un passage progressif de la sauvagerie à l'état policé et que les sociétés dans leur ensemble étaient parvenues à des stades de développement culturel très différents. Si l'Europe s'arrogeait le privilège de la civilité, l'Amérique semblait bloquée à un état sauvage, comme l'avait affirmé en 1724 le père Lafitau, en comparant les mœurs de ses habitants à celles des premiers temps. C'était depuis longtemps un lieu commun ethnocentrique du discours savant que de considérer les Américains comme des sauvages, voire des barbares. Et nombre de lettrés se représentaient l'Amérique comme un immense pays peuplé de bêtes féroces. Louis Moreri, dans son grand dictionnaire historique, notait que les peuples de ce continent étaient généralement sauvages et cruels, avaient le courage bas et les inclinations mauvaises. Avant que Furtière, dans le dictionnaire universel, ne fasse le lien entre les peuples qui ne peuvent pas aisément s'adoucir et se civiliser et les Américains nus, velus, couverts de poils. Sa conclusion était sans appel, presque toute l'Amérique s'est trouvée peuplée de sauvages. Naturellement, toutes ces idées trouvaient un écho dans le monde des spectacles. Mais ce processus n'a guère évolué. Il suffit aujourd'hui de propager une idée comme une vérité officielle, relayée par les médias, qui ont plus d'impact que les livres d'histoire, pour qu'elle se répande comme une traînée de poudre. Pour les mieux intentionnés, tels que Fuselier, le librettiste de Rameau, qui, loin de cautionner la colonisation, était au contraire plutôt un défenseur de la cause indienne, eh bien, il retournait simplement la monstruosité en naïveté. Mais vous comprenez aisément que ce sujet vaste mériterait des heures de débat et que l'évolution du regard porté sur l'histoire est marquée par une diversification des sources, une intégration des arts et une mise en question des méthodes traditionnelles d'étude du passé. Sujet complexe, d'autant que l'histoire est une passion française avec des enjeux à tous les étages. Enseignement, culture générale, politique et information citoyenne. Quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas trop l'habitude dans ce programme d'avoir de longues pauses musicales, je ne peux pas m'empêcher de vous offrir ce qu'on pourrait appeler le tube de cet opéra-ballet de Rameau et qui vous donnera peut-être, sans doute, l'envie de voir ce film documentaire et peut-être aussi de vous intéresser à l'opéra. Il s'agit de la dernière ou quatrième entrée des Indes galantes, dites « les sauvages », où la musique de Rameau épouse volontiers les mouvements saccadés, torturés et parfois spectaculaires des danseurs, autant dans la danse du grand calumet de la paix, qui scelle la réconciliation entre les envahisseurs européens et les Indiens, que dans « Forêt paisible, je me tais ». Thank you. À vrai dire, cette aventure pose plus de questions qu'elle n'en résout. Il suffit de constater le contraste entre les différents commentaires et la réaction du public et celle de la presse. Méditation ou allégorie de notre société? Est-ce une œuvre politique ou esthétique? Une révolution a-t-elle eu lieu à l'Opéra de Paris? Est-ce un point de rupture entre le peuple et les institutions? Cet opéra convoque-t-il réellement des thèmes d'actualité comme l'immigration, le rapport de la France à son passé colonialiste? Doit-on prolonger cette aventure? La possibilité d'une existence où la différence existe, est-elle un frein ou au contraire la matière même du renouveau des arts? Puis, une nouvelle génération d'artistes peut-elle, aujourd'hui, prendre la Bastille ?
C'était une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Beng.
Eh oui, voilà comment s'achève cette émission. Et je dois vous avouer que ce programme fut un peu plus difficile à construire que les autres, pour plusieurs raisons. La première, et les auditeurs fidèles l'auront certainement constaté, c'est que d'habitude, les thèmes développés ont une orientation unique et singulière, où je choisis d'exposer un sujet qui m'agace et m'irrite, comme ce fut le cas récemment avec le sectarisme, et j'argumente et tente de démonter ce phénomène toxique durant une heure, où je parle de choses qui me manquent, comme dans l'émission sur l'élégance. Et là aussi, j'essaie de persuader que cette qualité, cette attitude, embellirait la vie si elle était travaillée au quotidien. En deux mots, ces programmes sont ou des coups de cœur, ou des coups de gueule. Et pour une fois, on était, pour reprendre une phrase assez galvaudée, dans les deux à la fois. Coup de cœur pour ce film documentaire, pour cette initiative heureuse, et coup de gueule pour l'enthousiasme qu'il a suscité malgré le chemin qui reste à faire. Mais en y réfléchissant un peu, c'est à vrai dire un regard récurrent qui s'applique à mille situations. Doit-on, mettons, se réjouir d'un cadeau offert à un gosse vivant dans un pays en guerre, ou doit-on se révolter que des enfants vivent encore sous les bombes? Alors certains diront que c'est une éclaircie au milieu de la tempête. Certains y verront un espoir, d'autres une angoisse et une colère. Et c'est un peu ce que ce doc a suscité chez moi et que j'avais envie de partager. Que l'on se sente obligé de se réjouir quand les arts se métissent me paraît si invraisemblable, tant l'art s'est toujours nourri de ça et ne vit que par ça. C'est comme, je sais pas si l'on devait s'émerveiller que la croissance et le progrès social évoluent ensemble. Il y a des aberrations où mettons dissocier la foi de l'espérance ou l'ignorance de l'arrogance. Et de s'émerveiller, de s'enthousiasmer, d'avoir associé des sociétaires de l'Opéra de Paris avec des personnes qui n'y ont pas le droit de citer est à la fois surprenant, heureux et terrifiant si on y réfléchit bien. J'ai même entendu dire de la part d'une amie, une personne plutôt bienveillante et bien pensante, « Tu vois qu'on progresse. En quoi ?» Le choix d'Axel Saint-Cyrel pour chanter la Marseillaise lors de la cérémonie du 13 novembre dernier. Là encore, je suis tombé sur le cul. Et elle aurait pu me rajouter qu'elle avait été choisie pour interpréter la Marseillaise durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été en 2024, juchée sur le toit du Grand Palais drapé des couleurs de la France. Mais mon ami, ne s'intéressant pas au sport, avait dû faire l'impasse sur cet événement. En 2025, qu'une mezzo-soprano française, d'origine guadeloupéenne, donc noire, soyons clairs en façon de parler, soit choisie, est toujours, aux yeux de certains, un progrès. Je le répète, on n'est pas à l'époque de Rameau, mais en 2025. C'est vrai qu'on part de loin, de très très loin. Mais tant qu'on collera les gens dans des cases, en fonction de leurs origines, de leurs couleurs, de leur culture, on ne sera pas sorti de l'auberge. L'autre difficulté dans la construction de cette émission résida dans le regard évolutif que l'histoire nous impose. Car l'idée même de redéfinir l'histoire s'invite au travers des images de ce documentaire. C'est quoi l'histoire ? L'histoire est-elle une science ou un savoir ? Non seulement l'histoire existe, mais il est possible de faire un récit exact des événements du passé. Mais est-il possible de réduire le rôle de l'historien à rendre compte du passé sans le juger ni l'interpréter ? L'idée d'un récit exact du passé s'efface assez rapidement, car inutile, au profit d'une compréhension des sociétés du passé. Et c'est pour ça que l'histoire et les disciplines qui étudient le passé s'établissent bien comme des sciences qui se placent dans la catégorie des sciences humaines et sociales. Un terme que je préfère de loin à celui d'histoire tout simple. Quoi qu'il en soit, et malgré les aspects négatifs que j'ai relevés et développés tout au long de ce programme, je ne peux que vous encourager à vous procurer ce DVD ou en le louant ou en l'achetant ou le trouver sur une plateforme de streaming. Débrouillez-vous comme vous le voulez, mais offrez-vous la chance de regarder ce merveilleux documentaire qui vous donnera envie d'en savoir plus sur les danses urbaines, sur Rameau, sur l'opéra, et vous donnera, j'en suis sûr, la pêche pendant quelques instants. Quant à ceux qui ont déjà vu ce documentaire, je ne peux que vous encourager à le revisionner pour savoir si vous partagez le regard que j'ai eu et que j'ai tenté de vous transmettre durant cette émission. Voilà. N'oubliez pas qu'en vous rendant sur le site orinoco-podcast, vous pourrez, comme à chaque fois, réécouter, partager et commenter cette émission et y découvrir la liste complète des thèmes musicaux qui nous accompagnèrent durant cette heure passée ensemble. Voilà. J'y ai aussi fait figurer des liens vous permettant de visionner quelques vidéos de ce doc et de ce spectacle. En ce qui me concerne, bien écoutez, j'attends avec impatience de vous retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode qui, je l'espère, saura vous plaire. Un conseil, soyez-y. Ciao, à dans un mois.